Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti !
Cette semaine, on parle de féminisme washing. On va explorer les liaisons dangereuses entre publicité, capitalisme, entreprise et féminisme. Comment reçoit-on ces messages? Quels sont leurs effets? À qui ça profite? Est-ce aux femmes ou au business? On va en parler avec Anne-Laure. Salut!
Coucou! Ça va toi?
Oui, ça va.
Bon, bah, super.
Alors, pour parler des news féministes, donc c'est troisième confinement, retour à la Casbah. D'ailleurs, on en profite pour signaler que la pandémie a fait perdre 36 ans à l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, je pense que si elle arrive un jour, nous ne serons plus là pour la voir.
My God.
Sachez également que les sénateurs et sénatrices ont interdit, entre autres, aux femmes voilées d'être accompagnatrices de sorties scolaires. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir le sens des priorités en ce moment.
Vous avez beaucoup de plaisir à accompagner vos enfants?
J'adore ça. Et mes enfants adorent ça aussi. Donc je pense que ça leur fera beaucoup de mal si on n'a plus le droit d'aller avec eux. Et je suis très régulièrement, sauf imprévu, je suis régulièrement dans les sorties patinoires, piscines, zoo ou autre, et j'adore ça.
C'est absolument immonde. Donc concernant les suites de l'affaire Sarah Evervard à Londres, donc cette jeune femme qui a été assassinée dans les rues par un flic, à la suite de cette affaire, il y avait une étude qui était sortie disant que 97% des femmes britanniques avaient vécu du harcèlement sexuel dans leur vie. Et ce chiffre a fait frémir jusqu'aux collégiens et collégiennes françaises et français qui ont reçu cette info via les canaux des réseaux sociaux. Mmh. Et la question est la suivante, à quand une étude similaire en France? Est-ce qu'on pourrait obtenir des chiffres similaires? Ce serait quand même assez cool de savoir où on en est. Et on peut aussi rappeler, tu parlais du sens des priorités, on peut rappeler l'espèce de backlash immonde qui est tombé sur le dos de Audrey Pulvar quand elle a mentionné le fait que des hommes blancs pouvaient se taire dans des réunions. Si d'aventure ils arrivaient à s'incruster dans des réunions qui devraient être non mixtes. Mmh. Et on peut rappeler qu'elle a été justement l'objet d'énormes critiques on peut presque dire de harcèlement en ligne. Les temps sont durs pour les rêveurs et les rêveuses.
Les gens qui se prétendent progressistes et qui se prétendant progressistes distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau, nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, parle ici des réunions non mixtes organisées par le syndicat étudiant, l'UNEF.
Oui, ça tombe bien puisqu'on reviendra justement sur la question de la non-mixité très bientôt. On peut aussi souligner une super initiative puisque le collectif Représente Trans a sorti récemment un annuaire des acteurs et des actrices trans pour que les directeurs et les directrices de casting arrêtent de dire qu'ils et elles ne savaient pas qui contacter. Voilà, donc merci de vous y référer.
Bien, ouais.
Donc pour revenir au sujet de la semaine, on se souvient, je pense, toutes et tous, du fameux t-shirt féministe vendu par Dior à 600 boules. Donc cette semaine, on va s'intéresser justement à ce que les entreprises font au féminisme et à l'inverse, à ce que le féminisme fait ou pas à l'entreprise, avec le livre de la journaliste Léa Lejeune, « Féminisme washing » paru aux éditions du Seuil. À chaque fois, dans cette enquête, elle va prendre un exemple très concret et décortiquer ce qu'il y a derrière et montrer les limites de la démarche. En général, c'est souvent un manque de cohérence et pas mal de contradictions et on va voir de quelle manière ça se déploie voilà, dans la suite de l'épisode. Mais d'abord, explique-nous un peu, Anne-Laure, en fait, c'est quoi le washing ?
Alors bah déjà, le principe du washing, c'est un procédé marketing qui naît de deux ingrédients. Le premier, c'est en fait le changement des mentalités, un changement assez brutal qui mène au progrès social. Par exemple, si on prend l'exemple du féminisme, on est passé en quelques années du stigmate à la fierté, genre nos grands-mères, voire nos mères, être féministe, c'était quand même se présenter au monde avec une étiquette costaud. Et en gros, un peu le changement de perception de la morale qui, jusqu'à présent, était plutôt marginal et qui devient d'un coup accepté par la majorité parce qu'il y a des événements extérieurs, on peut penser au mouvement Black Lives Matter, ou parce qu'il y a un risque imminent, on peut parler de l'écologie. Ce changement-là provoque souvent dans le marketing un début de washing. Si on parle, par exemple, d'économie en tant que telle, l'économiste Niels Boissonnet a décrit ce mécanisme comme ça. Il existe un mécanisme mental par lequel une prise de conscience serait susceptible de causer un changement de préférence. Ce changement de préférence peut être non arbitraire et issu d'une forme de rationalité. C'est ce qui s'est passé en très peu de temps avec la population française qui se dit aujourd'hui en majorité qu'en fait on est féministe. D'ailleurs, La preuve, c'est que les antiféministes ont dû inventer un nouveau mot pour balancer leurs horreurs aux féministes. Ils ont inventé le mot féminazi, puisque le seul mot féministe ne recouvrait pas toute l'opprobre de l'époque.
Oui, alors à ça s'ajoute un deuxième mécanisme, puisque les entreprises surveillent ces changements de mentalité et décident de les accompagner, évidemment en faisant du profit. Et à ça, on peut ajouter une troisième logique qui consiste à maquiller tous les agissements problématiques que font les multinationales en s'achetant une moralité et en affichant un soutien à des causes enfin acceptées par leurs clients et leurs clientes. Au hasard, on peut prendre le cas de la marque Zara, qui fait des publicités inclusives, qui fait travailler des mannequins dites grande taille, ce qui en plus fait vendre leurs fringues, mais tout en profitant du travail forcé des Ouïghours.
C'est ce qu'affirme l'ASPI, l'Institut Australien de Stratégie Politique, dans un rapport publié au mois de mars 2020. Dans cette étude d'une quarantaine de pages, l'Institut épingle 83 marques issues de l'industrie du textile, de la technologie et de l'automobile. Des marques connues dans le monde entier comme Zara, H&M, Apple, Microsoft, Adidas, Uniqlo, Volkswagen ou encore Mercedes.
Alors il faut savoir néanmoins que récemment plusieurs marques se sont désolidarisées de ce travail-là, mais elles subissent en ce moment la pression, voire le boycott de la Chine. Donc on attend de voir ce que tout ça va donner.
Ouais, c'est le cas de H&M, à mon avis, ils vont retourner leur veste fissa. On peut aussi dire que le terme washing vient de l'expression whitewashing, c'est-à-dire le blanchiment à la chaux. C'est donc une manière de se donner bonne conscience, de laver plus blanc que blanc. Il y a une autre définition de whitewashing qui est raciste, donc c'est blanchir les personnes racisées, mais ça, c'est un autre débat. Mmh. On peut aussi rappeler que l'un des usages de la chaux, c'est de faire pourrir deux fois plus vite les cadavres pour faire place nette. Donc on voit bien que dans l'expression whitewashing, il y a le côté un peu ce que tu disais, donc le fait de maquiller les agissements des entreprises avec un marketing bien propre.
Oui, il y a quelque chose de pourri au pays du washing. Donc, d'ailleurs, le premier exemple de cette forme de lavage de cerveau qu'on connaît tous et toutes, c'est le greenwashing qui existe quand même depuis un moment. Donc ça, c'est à propos de l'écologie et des engagements affichés qui sont parfois totalement cosmétiques ou qui n'engagent à rien. On peut penser, par exemple, à toutes les marques de fast fashion qui se sont engagées dans le recyclage en façade, tout en continuant à polluer et ou à brûler des tonnes de vêtements. On peut aussi citer les multinationales qui promettent, par exemple, de planter des arbres pour faire comme si elles ne mettaient pas un gros coup de bulldozer dans la planète. Et ça, c'est un argument qui a été très bien décortiqué par les spécialistes. Par exemple, pour fêter ses 10 ans d'existence, la société Vinci, qui est donc une multinationale de concession et de construction, a lancé en 2010 une de ses grandes opérations poudre aux yeux pour faire genre, en disant que pour chacun de ses 180 000 salariés, un arbre était planté par son partenaire Pur Projet en Thaïlande, au Maroc, en Indonésie ou au Pérou. Or, il a finalement été prouvé depuis un certain temps qu'un micro-arbuste rachitique ne pourra pas, avant très 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 longtemps, remplacer des arbres centenaires en termes d'efficacité de traitement du CO2. Donc en fait, on voit très vite les limites de ce genre d'annonce.
Vinci Autoroute s'engage, politique de l'environnement, pour des éco-autoroutes. Et l'éco-autoroute, c'est quoi? C'est, sécurité, évidemment, convivialité, oui, bien sûr, mais surtout respect de l'environnement, attention, et un management environnemental de ouf, le truc.
Même mécanisme avec le pinkwashing, qui a débarqué dans nos vies au début des années 90, et il s'est surtout articulé autour des thématiques du cancer du sein. On a tous vu débarquer à ce moment-là des petits rubans roses un peu partout, des magazines qui proposent des pages extraordinaires, des publicités toutes de rose vêtues pour lutter en théorie contre le cancer du sein, les marques qui s'avancent aussi dans ce sens-là. Donc cette bonne cause fédératrice du cancer du sein, c'est une façon pour les sociétés de s'afficher comme progressistes ou humanistes en tout cas. Et ça a rapidement été dénoncé par la Breast Cancer Association aux États-Unis, qui dénonce en général, qui s'est donné la mission de dénoncer les entreprises ONG qui gonflent leurs chiffres ou ne disent pas combien ils reversent de fonds obtenus grâce à cette étiquette des pinkwashing. Par exemple, Estée Lauder a reversé des fonds à un organisme appelé la Breast Cancer Research Foundation, qui a été monté par sa propre patronne.
Lol.
Donc en gros, les gens se financent eux-mêmes en utilisant le prétexte du cancer du sein. C'est bien chaud. Les fast-food KFC aussi ont fait de la prévention tout en vendant du poulet plein d'hormones susceptibles de provoquer le cancer. Donc ça, c'est un bon gros pinkwashing.
Oui, bon, on n'est plus à une contradiction près là, au point où on en est.
Non.
Alors après le pinkwashing, il y a ce qu'on appelle le purple washing. Donc ça, c'est encore l'étape supérieure. Et donc, ça concerne le féminisme et les questions LGBT+, et notamment le placement de marques pour se donner l'air LGBT-friendly. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais du pride marketing. Et donc, à partir des années 90, là aussi, aux États-Unis d'abord, des marques ont fait de l'œil au dream market, donc le marché rêvé que représentaient les couples gays, plutôt aisés et urbains.
Et sans enfants.
On se souvient par exemple que en 1994, IKEA montrait enfin un couple gay qui achetait des meubles et qui montait des meubles. Évidemment, c'était un couple blanc et donc c'était une représentation avec assez peu de nuances et pas mal de stéréotypes.
Well, you know, we went to IKEA because we thought it was time for a serious dining room table and
we have slightly different tastes. I mean, Steve's more into country. It frightens me, but at the same time I have compassion.
We've been together about 3 years.
I met Steve at my sister's wedding. I was really impressed with how just well designed the IKEA furniture was.
He's really into craftsmanship.
These chairs are really sturdy.
This table concluded a leaf.
A leaf means commitment. Staying together, commitment. We've got another leaf waiting when we really start getting along.
Il faut dire que c'est un peu plus répandu dans les pays anglo-saxons, notamment au moment du Pride Month, donc au moment où il y a la marche des fiertés au mois de juin. Et à ce moment-là, c'est la déferlante, tout le monde s'y met, donc Burger King sort un Proud Whopper, la vodka absolue refait une version de sa bouteille aux couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on ne sait jamais vraiment derrière quelles sont, par exemple, les politiques de recrutement de ces entreprises pour que ce ne soit pas simplement un pur opportunisme pour toucher plus de clients et plus de clientes, tout en ménageant quand même les clients et les clientes traditionnels ou réactionnaires. Par exemple, la marque de fringues JCPenney a fait à l'époque des publicités assez valorisantes pour les parents de même sexe, mais ça a eu lieu juste après avoir annoncé un plan de licenciement massif. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas dupe non plus de ce genre de stratégie qui se sert sans vergogne des personnes LGBT+, comme cache-misère pour dissimuler des mauvaises pratiques. Et d'ailleurs, à ce sujet, la chercheuse Catherine Sander a également noté que le marketing évite soigneusement de s'adresser ou même de représenter des femmes lesbiennes.
Ah bah, tu fais bien de mentionner ça parce que bon, déjà, le purple washing se réapproprie des luttes gagnées dans le sang pour faire de la thune, donc c'est déjà bien problématique. Mais ce marketing-là fait aussi beaucoup de dégâts dans le seul truc qui pourrait pourtant le rendre un petit peu utile, donc la visibilité. Et c'est là que le bas blesse. Les lesbiennes féminines, par exemple, commencent à être vaguement représentées dans les pubs. On les a vues dans des pubs d'assurance ou dans des pubs même représentant des parents. Mais par contre, les butch, ça n'est pas vendeur. Les mecs trans maigres et canons, ça peut passer. Mais les daddy bears, donc à savoir les hommes gays, gros
et poilus,
ça passe pas trop. Les vieilles, ça passe pas trop. Les handicapés, ce n'est même pas la peine d'y penser, parce que il et elle pourraient complètement brouiller le message, puisque cumuler les oppressions pour la pub, ça ne marche pas. Ça n'est pas possible, ça n'est pas vendeur.
Ça va trop loin.
Cette visibilité est bien limitative, quoi.
En tout cas, elle s'exerce dans un cadre qui est lui-même très normatif et très limité, effectivement. Donc, est-ce que le féminisme washing est un signe que les temps auraient changé? Déjà, on peut rappeler que dès le début, le féminisme et les féminismes ont lié ensemble les luttes anticapitalistes et antipatriarcales. Donc, c'est vrai que le marketing du féminisme, dès le départ, est une évolution qui est assez dévoyée, sachant que la question ne les a longtemps pas du tout intéressés, puisque le marketing n'en avait absolument rien à faire du féminisme et ne le vendait pas, si ce n'est de manière très sporadique, parfois dans l'édition ou au cinéma. C'est surtout à partir de la troisième vague, donc à partir des années 80, que tout ça va évoluer. Et puis récemment, avec le mouvement MeToo, qui a soulevé une vague d'indignation assez unanime, en tout cas en France, qu'on nous a fait entrer dans une nouvelle ère dans laquelle la pensée féministe est diffusée assez massivement sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique ou de résistance à cette pensée, bien évidemment. Et donc, elle devient parfois un argumentaire de vente dans le cadre de publicités qui souvent d'ailleurs n'ont absolument pas de rapport avec le produit vendu.
Et là encore, c'est la force des réseaux sociaux.
D'ailleurs, un secteur qui illustre bien ce problème, c'est celui de la beauté et aussi des produits qui sont liés aux règles. D'ailleurs, il y a eu plusieurs moments charnières.
Oui, on peut remonter à 2004. C'est un premier tournant avec la campagne Dove Real Beauty.
Camera, camera's forward, and the recording sound, slate, and a wrap, orange, and a wrap. Sounds great!
qui se voulait en tout cas à l'époque body positive et qui avait été pensée par l'agence Ogilvy. On y voit une femme, mannequin, maquillée, retouchée, et son image devient une affiche dans la rue que tout le monde voit. Alors qu'en fait, elle ne ressemble pas tellement à ça, en fait. Au fond, c'est un peu une idée ultra-consensuelle de la beauté, qui évite évidemment soigneusement de parler de grossophobie ou de racisme, mais plutôt fixe le débat sur la confiance en soi. Donc, toujours rester positif et positive, c'est un peu le message des campagnes body positive. Et ça parle à tout le monde, cette campagne a eu beaucoup de succès.
Et après celle-là, on se souvient 10 ans plus tard, donc en 2014, que le femwashing donc, s'est attaqué enfin à la question des règles et à leur traditionnel sang bleu qui était montré dans des publicités. Et donc, à ce moment-là, c'est la marque Always, soutenue par l'agence Publicis, qui va diffuser un clip qui s'appelle Like a Girl, tout en embauchant comme caution la documentariste féministe Lauren Greenfield. D'ailleurs, c'est une publicité qui n'a rien à voir avec la question des règles, ni évidemment, par exemple, de la précarité menstruelle, mais qui s'approprie le concept militant du retournement de stigmates en utilisant l'expression péjorative « comme une fille » pour déconstruire ce stéréotype et montrer que faire comme une fille, non, ce n'est pas mal, en fait, c'est bien. Voilà.
Maintenant, lance comme une fille.
Oh!
Est-ce que tu penses avoir insulté ta sœur ?
Non, enfin oui, insulter les filles, mais pas ma sœur.
Cependant, Always va continuer de mettre des résidus pétrochimiques dans ses produits. Et c'est une marque, on le rappelle, qui est détenue par le groupe Procter & Gamble, qui possède également Gillette et Venus, qui ont longtemps appliqué la taxe rose différenciée. Donc ça consiste à taxer les produits vendus aux femmes donc plus chères. Voilà, donc encore une fois, il y a vraiment un manque de cohérence de bout en bout.
Ouais, très bon exemple. On peut aussi citer, si on reste dans la catégorie des produits concernant les règles, on peut parler de Thinks, la marque qui produit des culottes de règles et qui a des gros problèmes de management. Sa fondatrice est accusée de harcèlement en interne. Donc, est-ce du washing? Est-ce de l'abus? En tout cas, ça mérite de questionner donc la figure de la girl boss, la chef d'entreprise féministe qui se doit d'être parfaite aux yeux du monde et qui ne l'est pas forcément, et surtout toutes les contradictions que ça implique.
Oui, il faut quand même préciser que les femmes sont très souvent attaquées lorsqu'elles sont en entreprise, et donc évidemment les chefs d'entreprise féministes n'ont pas échappé à ces attaques, mais néanmoins elles n'ont pas été exemptes de ces problématiques. C'est important de le dénoncer. C'est le cas par exemple de Sofia Amoruso, qui avait créé la marque Nasty Gal, et dont on a en fait dénoncé la culture d'entreprise toxique. C'est aussi le cas de Audrey Gelman, qui a fondé l'espace de coworking féministe The Wing aux États-Unis, dont on a vanté toutes les qualités. En fait, on s'est rendu compte qu'elle traitait très mal ses employées non blanches. Donc voilà, il y avait vraiment un double standard dans la manière dont les femmes qui fréquentaient cet espace étaient traitées.
Articles recounting stories of racism, low wages and the failed promise of a feminist workplace began popping up left and right at the start of this year. One particular Instagram account, @flewthecoop, is gathering stories of former space staff who were mistreated and underpaid during their employment at the Wing. With a non-disclosure agreement in place, this account gives former employees a platform to speak about their experiences with anonymity.
Donc voilà, et même la fondatrice de Glossier, qui avait l'air d'être au-dessus de tout soupçon, Emily Weiss, a même été épinglée pour son environnement professionnel raciste. Oui. Voilà, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc on disait, la mode aussi est soumise à ces impératifs de féminisme washing. On se souvient donc du t-shirt Dior dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment l'apogée de cette contradiction. D'ailleurs, c'est par cet exemple assez iconique que commence l'analyse de Léa Lejeune dans son livre. On peut aussi penser toujours à Dior avec son défilé qui montrait des phrases féministes accrochées au mur.
Started with a letter from Maria Grazia, a proper handwritten, beautifully composed letter about how she had read my work, and then she said she wanted to use the title of my talk, We Should All Be Feminists, on a t-shirt. I think the reason it felt right is because she had written me that letter. I didn't think that it would have the kind of wide audience that it's had, and that's because feminism is still very contested and very controversial and still very much loaded with negative stereotypes.
De manière générale, il y a toutes ces marques qui s'intéressent aux grandes tailles tout en proposant un choix en réalité très limité, ou qui se servent des défilés comme des plateformes très visibles avec une seule mannequin racisée ou noire, Ensuite, en ne proposant encore une fois aucun choix derrière, je pense que l'exemple le plus fréquent, c'est celui de faire travailler dans des pays pauvres des femmes pauvres pour ensuite vendre dans des pays occidentaux à des femmes occidentales ces produits. Donc c'est toujours un peu le même problème. Mmh.
Donc tout à l'heure, on a mentionné le fait que les réseaux sociaux soient très importants en fait dans la valorisation du terme féministe. Et à ce jeu-là, les influenceuses ont joué un rôle particulier. D'abord, bien sûr, elles ont joué le jeu de ce qu'on pourrait considérer comme l'instrumentalisation du corps normé, dit normé des femmes, donc proposant des clichés, vantant la maigreur ou vantant le fait de ne pas avoir de poils, ce genre de choses. Mais tout cela s'est très vite retourné quand l'opinion justement générale est entrée dans le féminisme en fait. Donc les influenceuses se sont peu à peu appropriées les instruments des militantes. Donc par exemple, elles ont affiché des pilosités. On peut parler des influenceuses aussi qui ont parlé des règles, qui ont montré, leurs culottes ensanglantées, enfin des choses comme ça. Donc elles ont été elles aussi l'instrument de l'adhésion générale au féminisme. Mais certaines aussi ont un peu retourné leur veste. Jusqu'à récemment, le terme « je suis féministe mais » était relativement courant dans la sphère des influenceuses et dans la sphère en général médiatique. Et c'était un peu une façon de surfer sur une vague tout en évitant les requins. Et après la vague MeToo, justement, et après cette adhésion massive au féminisme, tout cela a un petit peu changé et de nombreuses personnalités qui faisaient dans le « je suis féministe mais » ont décidé d'avancer une posture féministe pour se vendre, pour vendre leur travail, qui est d'une certaine façon positif parce qu'encore une fois, ça visibilise les combats féministes, mais qui reste tout de même, à mon sens en tout cas, de l'instrumentalisation de la cause féministe.
Mmh. Bon. Je sentais le besoin de faire cette vidéo parce que j'ai vu passer tellement, tellement de choses à ce sujet et des choses qui sont tellement éloignées de la réalité que j'avais vraiment besoin d'éclaircir certains points qui ont apparemment été mal compris par certaines personnes et surtout pour toutes les personnes qui ont partagé ce post pour faire une bonne action et qui ont fait une bonne action parce que j'ai pas envie qu'ils commencent à douter du bien fondé de ce qu'ils ont fait et surtout de leur rappeler que grâce à eux et grâce à ce partage, ils vont pouvoir aider énormément de personnes dans le besoin à accéder à des protections menstruelles.
Oui, alors il y a d'autres domaines qui n'échappent pas à ce phénomène, notamment la politique. On se souvient qu'à l'occasion de certaines morts de personnalités, des journalistes ou des proches du défunt peuvent se rendre coupables de féminisme washing en écrivant des nécros pour mettre sous le tapis des choses un peu moins propres. On se souvient notamment du décès de Valéry Giscard d'Estaing, à peine mort, déjà washé, le pauvre. Et souvenez-vous aussi, c'était quand même il n'y a pas longtemps, il faut le rappeler, un président aux joues roses venait titiller l'esprit féministe des électrices et des électeurs en allant jusqu'à évoquer la possibilité de nommer une première ministre femme.
Waouh !
Ça n'est pas arrivé, évidemment. Alors depuis, Marlène Schiappa puis Elisabeth Moreno se sont succédées et elles ont utilisé le féminisme washing pour faire croire que le gouvernement Macron était progressiste, ou bien elles ont utilisé certaines mesures en faveur des femmes pour mieux dissimuler le bourbier d'autres réformes qui n'avancent pas. C'est le cas depuis fort longtemps de la PMA pour tous et pour toutes, hein, qui n'est pas sortie d'affaire.
Oh my god. Et un peu plus à droite dans l'échiquier politique, on peut aussi citer certains groupuscules d'extrême droite qui n'ont pas hésité à utiliser le féminisme pour faire avancer leurs idées. Donc, par exemple, on peut parler du groupe Némésis. Notre camarade Pauline Verduzier a parlé de cette clique dans le magazine Society très récemment, mais aussi les Antigones, un groupe donc de femmes qui avancent masquées, elles prônent des valeurs identitaires et archiconservatrices. Et pourtant, sur Wikipédia, on peut lire « Les Antigones est un mouvement alterféministe français se définissant comme un mouvement féminin alternatif et radical. Né en 2013, le mouvement veut porter un regard sur la féminité et les sujets qui s'y rattachent, ainsi qu'un regard féminin sur la société. » Bon, on imagine que c'est elles qui ont rédigé leur fiche Wikipédia, mais ce qui est fou, c'est que le doute est permis. Quelqu'un qui ne sait pas qui sont les Antigones pourrait croire deux secondes, trouver dans ce groupe quelque chose d'hyper positif et surtout d'hyper novateur en termes de féministe, ce qui est le cas dans un certain sens.
Femen, vous affirmez que le combat de la femme est féministe. Nous vous répondons qu'il est féminin. Femen, vous affirmez que la condition de la femme se défend seins nus. Nous vous répondons qu'elle s'acquiert dans la dignité.
Ouais, il faut faire attention effectivement à cette appropriation qui est tout à fait mensongère. Mais c'est vrai que c'est incroyable qu'on puisse se revendiquer du féminisme aujourd'hui pour être cool, alors que c'était vraiment pas le cas il y a très peu de temps. Ouais. Et chez nous, récemment, on a pu voir plusieurs exemples assez flagrants de féminisme washing, à la fois dans les pages des journaux et dans des affiches dans la rue, donc sous forme de vitrine pour cacher des pratiques problématique. C'est le cas du service de VTC Uber. On a vu fleurir en ce moment beaucoup d'affiches condamnant les propos homophobes ou des agressions sexistes dans les taxis, mais aussi dans la rue. Est-ce une manière de mieux détourner l'attention du public de leurs pratiques assez pourries, notamment en matière de rémunération des employés ? Et on rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup d'affaires d'agressions dans des taxis Uber et qu'en interne également, notamment au siège aux États-Unis de l'entreprise, il y a eu tout un tas de problèmes de harcèlement, y compris avec le fondateur de Uber. Donc voilà, tout ça est vraiment une manière de détourner l'attention. Alors regardez, regardez ailleurs. Voilà. Et vraiment, cerise sur le gâteau, même la police française s'y met. Donc on a quand même vu des affiches qui visent à recruter des femmes dans la police pour, je cite, lutter contre le sexisme ou le harcèlement de rue. Donc il y a écrit « Vous êtes féministe, devenez policier, policière ». Ce qui est quand même incroyable au vu des violences policières qui ont eu lieu cette année. On se dit « Mais on se fout vraiment de notre gueule en fait ».
Derrière nos uniformes, nous sommes des femmes et des hommes unis pour protéger et lutter contre les violences sexuelles et sexistes.
Engagez-vous à nos côtés et œuvrez au quotidien pour le respect et l'égalité.
Vous êtes féministe ? Devenez policière, policier, gendarme, sapeur-pompier.
On pense qu'on a la mémoire courte, surtout que la police, souvent, bien souvent, ne prend pas les plaintes dans les cas de violence concernant les femmes. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'affaire.
Ah non, mais ce n'est presque comique, en fait.
C'est ça, il n'y a plus de limite.
Alors, on peut faire un petit focus sur le 8 mars, où tous les ans, on a le droit à un petit bingo du féminisme washing. Cette journée-là, c'est l'illustration parfaite des dangers du marketing autour du féminisme mainstream, puisque ce marketing dilue complètement le sens des combats féministes dans un ramassis d'initiatives sauce guimauve. Ainsi, la Journée internationale des droits des femmes devient, dans l'esprit de tous, et surtout dans l'esprit des entreprises et des marques, la Journée de la femme. Donc, Carrefour offre des roses, Facebook propose de donner une pièce pour l'éducation des filles, quelques entreprises sortent des communiqués de presse, tous plus horribles les uns que les autres, pour montrer combien elles sont bonnes élèves dans la quête de la parité, tout en mettant, encore une fois, des glitters et des roses à tout va.
Et alors, pour comprendre un peu mieux comment toutes ces campagnes publicitaires sont conçues, il faut se pencher sur ce qu'on appelle le femvertising, donc la manière dont le féminisme est approprié par la publicité. Déjà, il faut rappeler que l'écosystème de la publicité a évolué depuis ses débuts, ce qui est assez normal, puisqu'avant, on vendait des produits et que maintenant, on vend des valeurs, donc plutôt une marque qu'un produit. Et il faut aussi rappeler que des associations féministes se sont saisies de cette question depuis assez longtemps, notamment les chiennes de garde qui ont été fondées en 1999, qui s'étaient créées notamment contre les publicités sexistes de l'époque. Pour en citer deux qui sont quand même assez exceptionnelles, il y a celle de la crème fraîche Babette. Donc je cite « Babette, je la lis, je la fouette ». Voilà, vraiment cerise sur le gâteau. C'est le cas de le dire, les rochers de la marque Suchard avec ce slogan « Vous avez beau dire non, on entend oui ».
Oh my God.
Et donc, le tout sur une publicité montrant une femme noire nue. Donc, vraiment, rien ne va là-dedans. Donc, c'est vrai que la publicité, ça reste une des cibles préférées du féminisme. D'ailleurs, on s'en prend souvent à des affiches, soit pour les déchirer, soit pour écrire dessus. Et c'est, je trouve intéressant de noter que les collages contre les féminicides ont en partie repris parfois la logique de visibilité de la publicité, mais évidemment pour l'inverser et pour servir une bonne cause. Ouais. En France, il existe bien une instance qui est censée réguler la publicité, c'est l'ARPP, sauf que dans les faits, ce n'est pas souvent suivi de sanctions. Voilà, on peut le regretter.
Et il faut aussi citer que la ville de Paris, par exemple, interdit les pubs sexistes, officiellement en tout cas, dans les rues.
Il faut ruser.
On peut aussi regarder ce qui se passe au niveau des agences qui ne sont vraiment pas exemptes de sexisme. L'an dernier, et d'ailleurs, cette année, il y a eu une sorte de, même complètement un MeToo de la pub. Rembobinons un petit peu. On peut rappeler que la pubarde Christelle Delarue a lancé en 2012 l'agence dite féministe Mad & Woman. et qu'elle a fondé l'association des femmes dans la pub qui s'appelle Les Lyonnes. Ensemble, elles ont décerné un prix en 2019 à la campagne The Non-Issue de L'Oréal qui parlait d'agisme. Des femmes qui ont travaillé sur cette même campagne et qui travaillent dans l'agence McCann Paris ont dénoncé de leur côté des agissements sexistes, de la terreur et de l'intimidation qu'elles ont subies dans leur travail. Donc les Lyonnes les soutiennent en placardant donc des expressions entendues à l'agence. Par exemple, « j'arrive pas à me concentrer tellement je bande », donc l'enfer, des agissements qu'on trouve dans bien des milieux professionnels, et c'est sorti donc dans 20 minutes. Donc après ces révélations, l'agence a finalement licencié deux directeurs de création, c'est ce qu'elle a dit en tout cas dans les médias, tout en annonçant aussi la formation aux risques psychosociaux qu'elle ferait à tous ses salariés. Donc est-ce que c'est une façon de redorer son image après le bad buzz? Est-ce qu'il y aura un vrai intérêt pour les salariés? Bon, on verra ça dans les mois à venir. En tout cas, en septembre 2020, il y a eu la création du compte Instagram Balance Ton Agency qui a multiplié les témoignages envers les agences de pub. On peut citer par exemple Buzzman ou Brax. Et surtout, on en reviendra tout à l'heure, entre-temps, Léa Lejeune a publié son livre et a recueilli de nombreux témoignages, dont certains concernent Christelle Delarue elle-même, qui est accusée de harcèlement. Donc vraiment, les cordonniers sont les moins bien chaussés parfois.
Oui, alors on parlait de publicité, mais les médias féminins ou féministes ne sont pas non plus exempts de reproches. D'ailleurs, le compte Instagram Balance ta rédac a également épinglé le site d'information Les Éclaireuses pour toutes ces mauvaises pratiques. Et on peut aussi penser à une publicité qui a été diffusée par Europe 1 l'année dernière, qui reprend les collages féminicides sans leur demander leur avis, évidemment, et surtout sans d'abord balayer devant sa porte. Quels effets est-ce que tout cela produit dans nos esprits et dans nos manières de consommer? Et de manière générale, quelle est l'importance qu'on accorde ou non aux représentations publicitaires? Déjà, on peut relever peut-être un effet positif du femwashing. Ça, c'est Rebecca Amsalem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, qui le précise dans le livre. Pour elle, l'important, c'est d'abord que ces messages circulent et qu'ils circulent auprès du grand public, peu importe d'où ils émanent. Alors, on peut aussi dire que peut-être que le mécanisme de l'appropriation culturelle complique un peu tout ça. Mais bon, on peut aller dans le sens de son argument avec la visibilité qui est une question politique. Lorsque la marque Moods fait une pub sur les règles avec le militant trans Noam de Nuit et la phrase « j'ai mes règles », c'est politique, même si ça reste du marketing.
Oui, et si on voit les choses du côté rempli du verre, on peut aussi dire que c'est un signe de changement de paradigme. Même si elles s'en vantent pour vendre leur cochonnerie ou effacer leur ardoise, on peut par exemple rappeler que Sony a été visée par plusieurs plaintes quant à sa politique de recrutement et a dernièrement affiché le recrutement de meufs et de meufs racisées. Est-ce que ce changement de paradigme est positif? On peut le penser, moi je le pense en tout cas. On pourrait aussi dire que le féminisme washing pourrait aider l'entrepreneuriat féminin, puisque, a priori, les entreprises féministes devraient être dirigées par des femmes. On peut aussi rappeler que l'argent est un peu une question taboue dans les milieux militants, parce qu'encore une fois, le féminisme dans sa construction est anticapitaliste, mais pourtant, l'argent est politique et se l'approprier et le revendiquer peut être aussi politique.
Oui, alors les aspects négatifs sont, on s'en doute, un peu plus nombreux, puisqu'évidemment, il y a un risque à monétiser le féminisme, et surtout, il faut se demander à quel genre de femmes cela profite. Il faut quand même rappeler que certains hommes font aussi leur beurre sur la pensée féministe. Alors, il y a des alliés, par exemple, comme l'humoriste Laurent Sciamma, mais on peut comprendre aussi la retenue de certaines personnes féministes qui sont gênées que son angle soit le féminisme, tout comme le livre de Martin Winkler, C'est mon corps, dont les grosses publicités sont affiché dans le métro et on fait pas mal cringer des meufs au moment où la politique éditoriale était quand même à la réappropriation de nos récits et de nos vies. Alors qu'il faut le dire qu'avant d'être romancier, ce monsieur est un médecin féministe allié, donc peut-être qu'il est légitime ou pas, voilà. Il y a aussi des start-upers aux dents longues hein, dans l'univers des médias, puisque Cosette a quand même été montée par deux hommes au départ, et c'est aussi le cas de Mademoiselle, ce qui veut dire que parmi les médias féministes, il n'y en a aucun qui a été monté par des femmes.
sauf la déferlante.
Donc voilà, faire une seule bonne action ne suffit pas à vous dédouaner de tout le reste. Encore une fois, c'est un problème de cohérence. Parfois, les effets d'annonce ne sont suivis de rien du tout. La question de la visibilité, elle est aussi, je pense, à double tranchant, puisque visibiliser sans politiser et sans trop se mouiller ou s'engager par ailleurs, voilà, ça peut aussi être un problème, tout comme l'opportunisme, puisque bien souvent dans ces campagnes, il s'agit de conquérir un nouveau marché plus jeune, et que en moyenne, ça produit des résultats puisque ces publicités sans stéréotypes augmentent les retours sur investissement de 30%. Ça, c'est Léa Lejeune qui le dit dans son livre. Mais aussi parce que ces marques et ces entreprises n'ont rien à perdre puisqu'il est aujourd'hui prouvé que le bad buzz n'a pas réellement d'effet négatif sur les ventes.
J'imagine même qu'il pourrait presque avoir un effet positif,
ouais, peut-être.
Puisque de toute façon, le nom de la marque circule. Mais bon, je ne suis pas économiste. Il faut aussi rappeler que l'objectif du féminisme washing, c'est de créer l'adhésion la plus large possible pour obtenir le plus de thunes possible. Et donc, par ce biais-là, il ne faut pas choquer, il ne faut pas aller trop loin. Donc, on montre deux petits poils sous les aisselles, mais on ne va pas aller montrer une bouche obèse, par exemple. Puisque ça, ce serait aller trop loin, alors que c'est évidemment pas le cas. Cette façon de chercher à ne pas choquer, ça donne évidemment plus de poids au féminisme mainstream, ça lisse les messages politiques, ça édulcore les objectifs de la lutte féministe, et ça généralise surtout une sorte de définition du féminisme entendable par la majorité. Donc par exemple, on peut l'entendre dans la bouche même de Marlène Schiappa, hein, le féminisme c'est l'égalité femmes-hommes. Et évidemment, ce n'est pas « on ne veut pas tuer les hommes », on ne veut pas faire taire les hommes.
Et oui.
C'est pour ça que Alice Coffin s'est pris une telle volée de bois vert quand elle a proposé de ne lire que des livres écrits par des femmes.
Et oui, Marlène Schiappa, Valérie Solanas, deux sons, deux ambiances. D'ailleurs, c'est ce que Andy Zeisler, qui est la fondatrice du magazine américain Bitch, appelle dans son livre le marketplace feminism, donc le féminisme de marché, c'est-à-dire une forme un peu abâtardie du féminisme, puisqu'on le sait, aujourd'hui, la récupération par le capitalisme ne permet pas la critique du capitalisme. Donc c'est vraiment une forme d'intégration de la marge par le centre. Il y a une autre autrice, c'est Alexandra Ray Hunt, qui a écrit Selling Empowerment, donc la vente, la commercialisation de l'empowerment, et qui écrit « La manipulation des idées féministes pour vendre des produits sape le pouvoir du mouvement et affaiblit ses efforts. Le femvertising résume la féminité à des décisions d'achat. » Effectivement, c'est la forme peut-être la plus faible d'engagement politique. C'est ce qu'on appelle le consommateur ou la consommatrice.
La consommatrice qui achète du Apple et s'inscrit à la MAP. C'est un peu moi, mais c'est le cas.
Alors, on va écouter le témoignage de Léa Lejeune, donc qui est l'autrice de cette enquête, et qui va nous expliquer quelles sont peut-être des solutions à mettre en place et de réelles bonnes pratiques. On l'écoute.
Alors oui, contrairement aux idées reçues, il y a des solutions qui sont utilisées aujourd'hui, dont la recherche en économie montre qu'elles ne fonctionnent pas. Par exemple, les réseaux de femmes au sein des entreprises qui mettent en contact des femmes à des positions parfois secondaires dans la société et donc ne leur permet pas de créer le vrai réseau qui pourrait être utile. Ou les formations à la diversité sur une journée. Bah oui, grande surprise, le fait de faire travailler sur les stéréotypes ancrés pendant toute une vie sur une seule journée, ça ne fonctionne pas et ça ne permet pas aux gens de se sentir responsabilisés. Oui, dans tout le chapitre 5 du livre, j'utilise l'économie comportementale et notamment le nudge pour montrer les solutions qui fonctionnent réellement. Par exemple, le fait que le PDG ou un membre du comité exécutif soit vraiment motivé, qu'il mette en place une politique volontariste et des mesures concrètes, ça a une efficacité. Ça joue en fait sur sa psychologie, sur sa générosité, mais aussi sur sa volonté de paraître un bon élément. Les boards de diversité ou les personnes en charge de la diversité au board, ça marche bien parce qu'en économie comportementale, on montre que les contraintes que l'on respecte le plus sont les contraintes que l'on s'est imposées à soi-même. Si on se dit à soi-même, je veux être dans une entreprise, je veux que cette entreprise soit la meilleure pour l'égalité homme-femme, du coup, on va mettre en place des actions qui permettent d'y être fidèles, parfois plus que si c'était imposé par l'État. Les méthodes les plus efficaces pour parvenir à l'égalité homme-femme, c'est d'ouvrir des postes et de promouvoir des femmes dès que possible, ce qui permettra la mise en place de rôles modèles, hein, d'idées que les femmes peuvent accéder à tous ces postes. L'autre possibilité qui en découle, c'est la méthode des panels, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un poste qui s'ouvre dans une entreprise, l'entreprise doit s'assurer qu'il y ait au moins une femme parmi les candidates. Aux États-Unis, il y a par exemple des programmes de recrutement à l'université où les managers vont chercher les étudiantes qui pourraient correspondre à tout ça. Et quand les programmes de ce genre sont mis en place, ça permet une promotion de 10% de femmes supplémentaires. Et c'est important. Une autre méthode qui compte, c'est le fait de concilier la vie privée et la vie professionnelle. Donc, par exemple, c'est de mettre en place des politiques de lutte contre le présentéisme. Pas de réunion après 18 heures. De s'assurer qu'il y a des congés paternité plus larges, parfois des crèches d'entreprise qui vont permettre aux femmes de mieux occuper leur poste sans sentir de contraintes ou de pression sociale particulière et de pouvoir s'organiser. La solution majeure, c'est donc de mettre en place une politique volontariste pour l'égalité hommes-femmes en entreprise et c'est donc de proposer des objectifs chiffrés de diversité avec des dates pour les atteindre. Ça peut être inscrit dans les indicateurs clés de performance des managers et fixer par exemple une partie de la prime des managers au fait d'atteindre les objectifs de diversité. La méthode des quotas a été beaucoup critiquée, mais on se rend compte avec la loi Copé-Zimmermann qu'en fait les quotas de femmes dans les conseils d'administration ont été efficaces et donc les quotas dans les comités exécutifs pourraient être utiles. Mais évidemment, il ne faut pas se limiter aux femmes au poste de direction, mais bien s'occuper d'égalité salariale et d'égalité de traitement dans les entreprises.
Alors merci pour ce témoignage et toutes ces bonnes idées.
Et du coup, toi, le feminist washing, tu l'as déjà expérimenté. Qu'en penses-tu ?
Bah ouais, en fait, je pense que qui ne l'a pas expérimenté, puisqu'on, franchement, on baigne dedans. Et en fait, ça nous demande vraiment un effort pour faire le tri. D'ailleurs, c'est la minute autocritique, puisque vous avez sans doute remarqué, si vous nous écoutez, que nous aussi, on fait de la publicité dans ce podcast. Et forcément, on se pose des questions aussi autour de cette pratique. Nous, notre point de vue, c'est de faire un compromis, c'est-à-dire pas compromettre notre engagement, mais tenir compte aussi des contingences économiques, puisque les personnes qui travaillent pour ce podcast sont payés. Après, c'est aussi possible de faire des podcasts de manière bénévole sans être rémunéré. C'est tout à fait OK, mais en tout cas, c'est pas le cas pour nous. Nous, par exemple, on ne fait pas de publicité pour les voitures. Enfin, voilà, on fait aussi attention à ce pourquoi on fait de la pub. Mais en tout cas, effectivement, ça nous invite collectivement à nous questionner sur notre participation au capitalisme ou au capitalisme raisonné et à comment faire si on veut vivre et si on veut rémunérer son activité féministe. Bon, nous, c'est plutôt une activité journalistique. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on est aussi, en tant que consommateur et consommatrice, très tributaire du fait que ces questions n'ont longtemps intéressé personne. Et donc forcément, maintenant, ça nous touche de voir des objets ou des produits qui ont l'air d'être pensés pour nous. Moi, personnellement, ça m'arrive d'acheter aussi des produits qui ont l'air d'être écolos. Et en fait, je me rends pas forcément compte tout de suite, mais parfois, il y a écrit Unilever sur la bouteille. Mmh. Et du coup, voilà, je suis dégoûtée. Donc je pense qu'il vaut mieux, par exemple, passer par des biocoop qui font déjà le tri en amont. Après, de manière plus générale, je trouve que quand une idée marginale devient mainstream, c'est bien de saluer la diffusion de ces idées, mais il faut quand même conserver un regard critique parce qu'en fait, l'effet que ça produit, c'est que l'engagement n'est pas réparti chez tout le monde de manière homogène, c'est-à-dire qu'il reste des militants, des militantes radicales, et à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être intéressés et plus ou moins convaincus, mais qui ne sont pas forcément engagés de la même manière. Voilà. Et dernier point, je pense, pour lequel je n'ai pas vraiment de réponse, c'est que des marques qui font vraiment l'effort de faire des produits made in France et de reverser peut-être une partie de leurs profits à des associations féministes, c'est le cas par exemple de Meuf Paris, ce sont des marques qui sont chères, et donc quel genre de femme peut se les payer ? Voilà, ça pose un autre problème aussi au bout de la chaîne de production. Donc voilà, moi c'est une question que je me pose, effectivement, je n'ai pas vraiment de réponse. Et toi, du coup, comment tu vis le purple washing à tous les étages ?
Bah justement, comme tu dis, ce qui est compliqué avec cette question, c'est qu'on a un peu le cul entre deux chaises. Bon, c'est vrai que d'un côté, moi, je suis toujours un petit peu agacée de voir dans des pubs des messages archi-féministes, genre les équipementiers sportifs qui d'un côté, ont poussé dans l'histoire à sexualiser, par exemple, les joueuses de tennis, et de l'autre, se mettent à vendre des petites meufs qui font du skate aujourd'hui. J'ai aussi du mal avec les personnalités qui, sentant le vent tourner, décident de changer de fusil d'épaule. ça me fait toujours un petit pincement au cœur pour toutes celles et ceux qui ont essuyé les plâtres avant, en fait. J'ai l'impression qu'à visibiliser ce féminisme-là, on invisibilise la lutte, le sang, la haine qu'ont vécu nos prédécesseuses. Mais bon, c'est un petit peu comme pour la visibilité LGBT. Je me dis toujours que c'est un petit peu ça de prix. Je trouve ça ouf que des gamines de 10 ans aujourd'hui aient des slogans féministes en tête. Qu'elles les aient sur leur t-shirt ou leur badge, c'est un petit peu une autre histoire selon moi. Mais c'est quand même assez ouf. Ce que j'essaie de faire, c'est évidemment pas d'acheter des badges « Je suis féministe » sur Etsy ou chez H&M. Mais j'essaie de donner mon argent à des meufs artistes. Par exemple, là, je leur fais la déco chez moi, et ben, je vais acheter une sérigraphie de Malik Batman que je vous conseille de suivre. Je vais aussi essayer de donner mon argent à des autrices. Donc, je vais demander des livres de mecs en service de presse, mais acheter des livres de meufs en librairie. Je vais aussi essayer de donner de l'argent à des entrepreneuses, comme les meufs de La Déferlante, qui ont quand même, elles aussi, lutté un petit peu pour monter leur journal, même si c'est encore une fois une bonne époque pour le faire.
Non, mais c'est vrai que par rapport à rien, c'est mieux que rien. Mais il faut quand même noter la violence que ça peut aussi représenter pour les employés de ces entreprises quand ces entreprises tiennent un discours et quand en interne, le comportement est très différent. Je pense que c'est extrêmement répandu, voire la norme. Enfin, il faudrait se pencher sur la question.
Ouais.
Le moment
pop culture.
Pop culture.
Alors, pour parler un peu de pop culture, bienvenue dans un univers de paradoxes.
Ouais. Par exemple, si on reprend la figure de Frida Kahlo, on avait fait d'ailleurs un épisode à son sujet. Enfin, l'image de l'artiste a été utilisée par le marketing comme figure féministe à tort et à travers. Enfin, on l'a trouvée sur tous les supports possibles. Lors de l'épisode, on avait d'ailleurs rappelé que les membres de sa famille avaient monté une société pour garder les droits de ses images et vendre des produits dérivés. Ils ont fait un deal avec Mattel, par exemple.
Who is now one of the first dolls in the new Barbie Inspiring Women's Collection, created in recognition and celebration of powerful female heroines and role models throughout history.
D'un côté, c'est positif parce que des petites filles jouent avec une poupée Mattel Frida Kahlo. D'un autre côté, c'est archi négatif puisque ça dévoie complètement la lutte de Frida Kahlo et sa philosophie à l'époque.
Et alors, il y a une série qui est un bon exemple de féminisme washing, c'est The Bold Type. C'est aussi une série qui dénonce le femme washing dans ses épisodes, mais ça ne l'a pas empêché d'en faire puisque la comédienne Aisha Dee, qui joue le personnage de Kat dans la série, donc le personnage de la community manager du magazine. Donc cette actrice a réclamé plus de diversité dans l'équipe de la série et donc pas simplement devant la caméra. Par exemple, elle a raconté que pendant plusieurs saisons, personne ne savait s'occuper correctement de ses cheveux. Donc c'est quand même un gros problème.
I'm a feminist. And so is this magazine. It's about clothes and makeup. That's actually a common misconception.
Oui, alors il y a de nombreuses personnalités qui ont fait les frais de critiques, notamment Beyoncé en lançant sa ligne de vêtements Ivy Park en collaboration avec la marque Topshop. À l'époque, ça avait provoqué une levée de boucliers puisque on s'est rendu compte que ces vêtements, et encore une fois, ce n'est pas la seule, étaient fabriqués dans des sweatshops par des femmes vivant sous le niveau de pauvreté. Donc, on le rappelle, ce sont souvent des travailleuses qui perdent des doigts dans leur travail, qui se suicident ou qui meurent parfois dans des incendies d'usines, comme c'était le cas, on s'en souvient, à Dhaka, au Bangladesh, en 2012, où un immeuble vétuste avait pris feu et tout le monde dedans avait péri.
On appelait le Rana Plaza, un immeuble de 9 étages dans la banlieue de Dhaka. Il n'en reste qu'un tas de pierres, de métal et de tissus. Les secouristes continuent de découvrir des cadavres, 7 ce matin-là. Hébétés, ceux qui ont échappé à la mort il y a 3 semaines sont toujours là.
C'était absolument atroce. Néanmoins, il faut quand même noter qu'en 2019, Beyoncé a annoncé qu'elle ne travaillerait plus avec Topshop au moment où son patron, Philip Green, a été visé par des accusations de harcèlement sexuel. Donc voilà, c'est sans doute trop tard, mais c'est pas mal de sa part de s'être désolidarisée de toutes ces mauvaises pratiques.
Oui, et encore une fois, on attend 2 fois plus de pureté militante de la part de femmes féministes que des
c'est
hommes.
Ça.
On peut aussi rappeler...
D'ailleurs, justement.
Oui, on peut aussi rappeler le cas Joss Whedon. Donc, s'il y a un gars qui a gagné sa vie avec un personnage féministe, c'est bien lui. Il a créé le personnage de Buffy contre les vampires, personnage qui a été très important pour nombre de féministes des années 90 et 2000. Cet homme est accusé par de nombreuses actrices d'avoir entretenu un environnement toxique sur les tournages, d'avoir eu des comportements très inappropriés envers une adolescente qui jouait Dawn, la sœur de Buffy, et même d'avoir harcelé sexuellement une actrice, pour celles et ceux qui connaissent Cordelia. Et donc là, on peut vraiment parler d'une espèce d'ordure qu'a utilisé le féminisme pour son propre profit.
Il y a aussi Netflix, dont on vante quand même souvent l'agenda progressiste, mais ça n'empêche pas ce diffuseur d'être aussi épinglé pour ses limites, puisqu'il diffuse un peu tout et n'importe quoi, par exemple Emily in Paris ou bien Girl Boss, la série.
Je voudrais ceci. On dit 8, ça vous va ?
Pas question, sur l'étiquette c'est 12.
9, ça va ? Et je vous donne un truc pour faire des affaires.
Entendu. Alors, c'est quoi votre truc ?
Ceci est un blouson de motard original en cuir de veau Est-Ouest des années 70 et en parfait état. Alors, sachez ce que valent vos trucs. Vous venez de vous faire avoir.
C'est quoi votre business exactement ?
En gros, j'achète des fringues vintage pas chères, je les rends cool et puis je les vends en ligne pour beaucoup plus cher.
Donc Girl Boss, voilà, c'est une série sur une femme problématique dont on a parlé un peu plus tôt dans cet épisode.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que
tu
écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles. De quoi de meuf ?
Qu'est-ce que tu as lu, vu de chouette ces derniers temps, ma chère Clémentine ?
Alors moi j'ai vu la série de Russell T. Davies qui s'appelle It's a Sin, qui est diffusée en ce moment sur Canal+. C'est une série sur les années du sida à Londres dans les années 80, qui suit un groupe d'amis, donc de jeunes hommes gays et ainsi qu'une jeune femme, au moment où l'on découvre vraiment les débuts de cette maladie.
Love you. I came to London and I thought, great, I can be gay.
Je pense qu'il y a un vrai bénéfice à incarner cette histoire-là à l'écran face à tout le savoir théorique qu'on peut avoir sur cette époque-là. Et je pense particulièrement à une scène dans laquelle on voit une famille brûler tous les effets personnels de leur fils qui est mort du sida. C'est pour moi, c'est pas pareil de voir ça et de savoir ce qui s'est passé. Néanmoins, j'ai quand même une réserve sur cette série. Et je pense que peut-être pour des personnes concernées, on peut être un peu lassé ou être un peu triggered d'être tout le temps associé à des représentations mortifères. Voilà, c'est ma seule réserve sur cette très belle série. Mmh. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as lu cette semaine ?
Alors, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai quand même lu pas mal de livres assez ouf, mais donc je vais quand même faire un choix. Je vais vous conseiller en priorité de lire le nouveau roman de Mathilde Forget, De mon plein gré, qui est sorti chez Grasset. On y lit les minutes hors du temps qui suivent un viol, la lenteur de l'enregistrement de la plainte, les maladresses gravissimes des policiers, et on suit la pensée de cette narratrice qui s'égare et qui nous rappelle toutes les voix qu'on n'entend pas, en fait. Toutes les réflexions que se font les survivantes de viols, minutes qui suivent cette horreur. C'est vraiment une merveille. Je dis pas ça parce que c'est ma pote, mais vraiment, je vous conseille de le lire. Si vous êtes concernée, il y a peut-être un trigger warning, soyez prête. Et sinon, je vous conseille aussi le film sur Madame Claude, qui est disponible sur Netflix. Moi, alors, j'ai honte, mais je ne connaissais pas tous les détails de la vie de Madame Claude. Et si jamais vous ne connaissiez pas le personnage, comme moi, le personnage de cette puissante maquerelle, allez-y, franchement, ça fait le job.
Allez, 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 rangez-moi tout ce bordel, Marlon Brando arrive dans 15 minutes.
J'ai réalisé très tôt que la plupart des hommes nous traitent comme des putes. J'ai décidé d'être la reine des putes.
Hello, nice to meet you.
Il y en a même qui doutent de mon existence.
Merci, on va regarder tout ça.
Allô, allô,
allô, allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors, dans le courrier des auditrices, cette semaine, c'est Adeline qui nous envoie ce message. Je suis sur TikTok et je crée des vidéos pour combattre le sexisme en entreprise de façon bienveillante et je reçois énormément de commentaires intimidants de certains. Je sais que j'aide beaucoup de jeunes et ça me donne de l'énergie, mais je suis aussi fatiguée et triste parfois. Même à 37 ans, c'est dur d'encaisser. Si vous avez des conseils, ça me ferait beaucoup de bien. Anne-Laure, est-ce que tu as des conseils ?
Alors Adeline, du haut de mes 36 ans, je compatis à ce que tu écris là. Je pense que on est beaucoup à s'identifier dans ton témoignage. À mon sens, tu vis un peu deux trucs combinés. Le premier, c'est du harcèlement en ligne. Par définition, le harcèlement, c'est l'accumulation d'attaques provenant même de plusieurs personnes, hein, des attaques que tu reçois toi seule. Et c'est souvent d'ailleurs après avoir posté des contenus féministes que les militantes se retrouvent attaquées par ce harcèlement-là. Tu dis qu'ils sont intimidants. Ces commentaires peuvent se retrouver d'ailleurs sur le coup de la loi, parce que poster des menaces sur Internet, c'est interdit. Donc tu peux, si tu ressens de la peur, aller porter plainte, ce qui peut te permettre de te dire que tu gardes le pouvoir de la situation, mais ce qui peut aussi être épuisant. Puisque, on l'a dit tout à l'heure, la police n'est pas forcément bienveillante dans la prise de plainte de harcèlement visant les féministes. Autre point important, tu dis que tu es triste. Il faut que tu fasses attention au burn-out militant qui guette chacune et chacun d'entre nous à certains moments de notre vie. Tu te bats pour les jeunes, tu as l'impression de les aider, mais ils t'en coûtent psychologiquement. Donc, il ne faut pas oublier que tu es là pour t'aider toi aussi. Donc, n'hésite pas à faire une pause. Envisage ça un peu comme une jachère des sentiments pour revenir avec la force de Wonder Woman et faire mordre la poussière aux sexistes et aux commentateurs imbéciles. En tout cas, courage, on est avec toi.
Merci, Anne-Laure. Bon, j'espère qu'on a fait le tour de la question du féminisme washing et que vous ouvrirez l'œil la prochaine fois. Et d'ailleurs, tu mentionnais Wonder Woman, ça tombe bien puisque ce sera le thème de notre prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Merci, salut Anne-Laure.
Salut.
Quad Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Anne-Laure Pinault,
mixage Laurie Galligani, prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation, montage et coordination Ashley Tola.